la transfiguration. Lui, Jésus-Christ, né de Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Lui, le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie par l'Esprit Saint. Lui, vrai Dieu et vrai homme, manifeste sa divinité dans son existence humaine. Voilà la transfiguration de Jésus. Elle se passe sur une haute montagne devant trois témoins, Pierre, Jacques et Jean. En général, deux témoins suffisent pour avoir la valeur juridique. Mais ici, ils sont trois, renforçant la solidité de leur témoignage. Que signifie la transfiguration de Jésus pour nous? Nous pouvons en relever au moins trois, au moins. Tout d'abord, la transfiguration de Jésus est située dans l'Évangile entre l'annonce de sa mort et sa résurrection. En fait, chez Matthieu, juste avant la transfiguration, Jésus questionne ses disciples sur son identité. Qui suis-je? Qui suis-je pour vous? Et Pierre répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Mais aussitôt, Jésus annonce qu'il réalisera son œuvre messianique, c'est-à-dire le projet de Dieu de sauver le monde, seulement, uniquement par sa mort sur la croix. Comment comprendre, comment accepter un tel scandale pour les Juifs et une telle folie pour les Grecs, selon l'expression de saint Paul? En réalité, pour aider ses disciples à cheminer au-delà de leur compréhension limitée, Jésus leur montre que la résurrection ne vient qu'après sa mort sur la croix. Oui, la transfiguration de Jésus est une anticipation de sa résurrection. Nous montrons que c'est aussi notre chemin. Si Jésus marchait comme cela pour avoir la résurrection, oui, nous aussi, nous, en suivant le même chemin, nous connaîtrons la résurrection. En deuxième point, la transfiguration est une théophanie. Son visage devient brillant comme le soleil, ses vêtements blancs comme la lumière. Devant le règne, la puissance, la majesté, la gloire de Dieu, aucun être humain ne peut tenir. C'est pourquoi les disciples, saisis de grandes craintes, tombent face contre terre. Or, cette théophanie, cette présence de Dieu en Jésus, ce n'est pas quelque chose de terrifiant, mais ce qui rassure l'homme dans sa peur, dans son angoisse. C'est pourquoi Jésus vient auprès de ses disciples et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Il nous montre qu'ainsi, nous avons une dignité inviolable, extraordinaire. C'est ce que nous pouvons voir en troisième point, qui concerne en quelque sorte la famille de Dieu. Nous nous rappelons, après le déluge, le peuple a construit la tour de Babel. Mais ce fut un échec total, car le peuple était complètement disloqué, chacun suivant, écoutant ses idées, sa langue, son esprit. Dieu ne s'arrête pas pourtant sur un tel échec. Comme nous l'avons vu dans notre première lecture d'aujourd'hui, il appelle Abraham pour se former un nouveau peuple. Il lui a donné, entre autres, Moïse et Élie comme guides dans l'Ancien Testament. Or, ce peuple obtient désormais en Jésus-Christ un autre statut, un statut inespéré, infiniment précieux. C'est la famille de Dieu. Nous l'avons entendu au moment de la transfiguration. Jésus est appelé solennellement. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est exactement la même déclaration que Jésus a reçue lors de son baptême. Cela veut dire qu'à notre baptême à nous, Dieu le Père a dit à chacun de nous, « Tu es mon enfant bien-aimé. » Si nous sommes appelés ainsi, ce n'est pas parce qu'on est milliardaire. Ce n'est pas parce qu'on est Miss France. Ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent que les autres. Mais tout simplement, comme le dit encore Saint Paul, parce que l'amour de Dieu est infiniment grand. Si nous reconnaissons que Dieu est notre Père, si nous acceptons, nous croyons que nous sommes ses enfants, nous participons alors pleinement à la famille de Dieu. Or, frères et sœurs, que veut dire reconnaître que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants? Puisque Dieu dit à chacun de nous, « Tu es mon enfant bien-aimé », comment se concrétise cette parole dans notre vie quotidienne? Puis-je vous raconter ce qui m'est arrivé tout récemment? Le jeudi 16 janvier, j'ai eu une rupture musculaire qui m'a cloué au lit pendant 3 semaines et qui a considérablement réduit mes activités aujourd'hui encore. Je sais que beaucoup d'entre vous priez pour moi, prenez mes nouvelles, me rendez du service nécessaire, où je vous en remercie du fond du cœur. Il n'empêche, en raison de ma faiblesse humaine, il m'était pénible de passer ce temps dans la souffrance, dans la solitude. Plus d'une fois, je me disais, « Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là ?» Mais en même temps, c'était pour moi une occasion de me rappeler, de vivre pleinement cette parole « Tu es mon enfant bien-aimé ». Et je vous assure que j'étais bien consolé, fortifié par cette parole. Je pouvais vivre ce temps autrement. Mes frères et sœurs, nombreux sont nos soucis, problèmes, nos peines physiques ou morale, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous dire? Mais en ce temps du carême, n'oublions pas que le Seigneur prend chacun de nous dans ses bras. Il dit, tu es mon enfant bien-aimé. Et que nous pouvons, en ce moment-là alors, l'appeler notre Père en réponse. Notre réponse. Oui, n'oublions pas également que nous avons reçu une mission sainte de témoigner cet amour de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé.